La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données à vous personnellement, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quel que soit votre parcours de vie, Dieu vous bénit et vous accompagne avec tendresse. Merci d'être là, d'avoir bravé la chaleur, bien que grâce à Christophe, les fenêtres ont été ouvertes et il fait un peu bon ce matin dans le temple. Mais c'est vraiment une force d'être ainsi rassemblés pour chanter à Dieu nos louanges et puis aussi pour nous ouvrir à cet esprit, à ce souffle qu'il nous donne et qui nous permet d'interpréter notre existence. Grand merci à Aude qui va nous guider dans cette première partie du culte qu'elle a entièrement préparée avec son cœur, son intelligence, sa foi. Aude, grand merci à vous.
Je vous propose maintenant de suivre du cœur le psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son des trompettes. Louez-le avec le huth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et à flûte. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Je vous propose maintenant de chanter ensemble le psaume 36 à la page 60. Ô Seigneur, ta fidélité, les trois strophes.
Thank you.
En Christ, l'amour de Dieu nous a été manifesté. Et il nous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. C'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. Ce que nous pouvons faire en suivant du cœur cette prière. Seigneur, certes, comme le disent les 95 thèses de Martin Luther, la repentance devrait être un état de prière et de pensée perpétuelle. Pourtant, cet état peut venir à nous manquer. C'est pourquoi nous venons devant toi, reconnaissant nos manquements, et nous te demandons ta grâce et ta miséricorde. Renouvelle nos cœurs, souvent démunis, face au tumulte de nos vies, et fais descendre sur nous ton Esprit Saint. Fais-nous agir comme tes disciples bien-aimés pour répandre ton évangile et être un souffle de vie pour notre prochain. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de leur pardon et la grâce d'avancer. Car oui, malgré l'horreur que nous, les hommes, pouvons faire subir à d'autres, malgré le fait que nous fermons parfois les yeux sur la misère bien pourtant si proche de nous, malgré tous nos défauts, tu es là. Oui, tu guides nos âmes et tu nous forges contre les ténèbres de la cruauté humaine. Même quand nous fermons les yeux pour nous endormir, nous te sentons, nous te voyons. Oui, quand nous ouvrons les yeux, nous avons la chance de regarder par la fenêtre et de voir que tout est pareil que la veille. En sortant de nos lits, nos pieds ne touchent pas le sol, car tu nous élèves de ta main droite et nous avançons avec confiance. Car nous savons que tout est surmontable à tes côtés. Tu ne mets pas sur notre chemin des obstacles que nous ne pouvons surmonter. Sortons donc grandis de ce pardon et marchons dans l'honneur de tes bienfaits. Amen. Nous pouvons maintenant chanter notre reconnaissance avec le chant du psaume 116 à la page 132. J'aime mon Dieu, les strophes 1, 2 et 3.
À quoi comparerais-je cette génération ? Se demande Jésus. Et il analyse, elle ressemble à des enfants. Il nous invite ainsi à prendre du recul et à regarder où en est notre humanité. Et puis Jésus porte sur elle un regard délibérément bienveillant. Il compare donc l'humanité à des enfants. Or, un enfant, où qu'il en soit, va grandir. Ça donne donc de l'espoir. Alors, que relève-t-on, nous, en regardant notre génération? Pour commencer par le regard bienveillant de Jésus sur l'humanité, je dirais d'abord que l'humanité est vivante. Et puis qu'au niveau des individus, 99,9% des personnes que nous connaissons, eh bien, sont des personnes qui font ce qu'elles peuvent. Et que partout, on discerne des liens d'attachement, de solidarité, de prise de conscience. Et pourtant, nous voyons aussi que notre humanité est en crise. Alors, avec quels symptômes pour essayer de voir ce qui arrive et ce que nous pourrions faire, peut-être? Alors, je dirais un manque de vision à long terme, cherchant seulement à profiter maintenant. C'est vrai à tous les niveaux. On voit la violence dans les rapports de force. On voit une crise de sens. On voit le rejet des repères du passé et de Dieu. Et puis surtout, peut-être, un mal-être qui prend les dimensions d'une pandémie. Alors, quel diagnostic devant ces symptômes? Est-ce que ce serait une maladie grave? Ou bien est-ce que ce serait les signes que notre humanité serait frappée de démence sénile et est en fin de vie? Ou est-ce que, comme le suggère Jésus, l'humanité serait au contraire en état d'enfance et traverserait donc une sorte de crise d'adolescence? L'attitude bienveillante et pleine d'espérance que pose Jésus sur l'humanité, elle est à mon avis caractéristique du regard que porte la Bible sur les crises qui frappent l'humanité, les crises de toutes sortes. La Bible compare ces temps de crise à une traversée du désert. Alors c'est une expérience dangereuse, c'est une expérience pénible, asséchante, mais elle est tournée vers la vie, c'est une traversée vers la vie. Alors l'expérience millénaire de la Bible, multimillénaire de la Bible, nous aide vraiment à faire, à notre tour, une tentative d'examen clinique de la crise de notre génération. Alors je vous propose de le faire, selon donc cette tradition biblique, de le faire avec deux traversées du désert. Celle des Hébreux, emblématique bien entendu, celle de la Pâque, on dit cette traversée du désert des Hébreux, et puis celle de Jésus lui-même. Alors comme j'ai renoncé à vous lire entièrement le livre de l'Exode et puis le livre des Nombres pour faire bonne mesure, eh bien je vais vous lire un résumé qu'en donne le livre d'Osée au chapitre 11, où c'est Dieu qui parle. « Quand Israël était jeune, je l'ai aimé, et d'Égypte j'ai appelé mon enfant. Mais ceux qui les appelaient, ils s'en sont écartés, et c'est au Baal qu'ils ont sacrifié. » C'est des idoles taillées qu'ils ont honorées par des offrandes. C'est pourtant moi qui avais appris à marcher à Éphraïm, les prenant par les bras, mais ils n'ont pas reconnu que je prenais soin d'eux. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson contre leur joue, et je lui tendais de quoi se nourrir. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Corinthiens, nous rappelle une interprétation de cette histoire. Ces événements leur arrivaient pour servir d'exemple et furent mis par écrit pour nous instruire, nous qui touchons à la fin des temps. Et ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de se casser la figure. Et puis donc la traversée du désert de Jésus lui-même, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était dans le désert, conduit par l'Esprit. Pendant 40 jours, il était tenté par le diviseur. Il ne mangea rien en ces jours-là. Et lorsque ce temps fut écoulé, il eut faim. Alors le diviseur lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, « Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. » Le diviseur le conduit alors plus haut et lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diviseur le conduit alors à Jérusalem et le plaça sur le sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, « Il donnera pour toi des ordres à ses anges et te gardera. » Et encore, « Ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelque pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Et puis ayant alors épuisé toute tentation possible, le diviseur s'écarta de lui pour un temps. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant, personnellement, à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul nous propose donc de nous aider du récit des Hébreux traversant le désert pour comprendre en profondeur notre génération. Il nous dit que ce récit parle de ce que nous traversons aujourd'hui, nous, et que cela nous éclaire sur la fin des temps que nous semblons être en train de vivre. Paul, comme le prophète Osée, évoque une humanité ingrate, attristant Dieu qui constate « Ils n'ont pas reconnu que je prenais soin d'eux. » À mon avis, c'est typique de la révolte d'une crise d'adolescence. N'est-ce pas notre génération? Mais ce récit des 40 années dans le désert d'aventure, eh bien, ça évoque, à travers ce nombre 40, la gestation humaine qui dure 40 semaines d'aménorrhée, dit-on. Ce récit est celui de la naissance, donc, de la gestation et de la naissance d'une nouvelle façon d'être un peuple, une humanité. Ce ne serait pas donc une fin de vie, au contraire, l'humanité traverserait simplement une crise d'adolescence. En effet, l'enfant est surpris par sa propre croissance, comme notre humanité est surprise devant les pouvoirs faramineux, totalement nouveaux, qui lui sont donnés. L'adolescent est alors pris de vertige. Il perd ses repères, il teste un peu n'importe comment sa force nouvelle et ses charmes nouveaux. En même temps, il ne sait pas comment les maîtriser, ni comment se situer par rapport aux autres avec tout cela. Il méprise ses parents, ses professeurs, son Dieu, se fond plutôt dans son petit clan pour se rassurer face aux autres. Peut-être alors pourra-t-il être plus fort que les autres. Notre humanité en est là, et c'est compréhensible donc. La situation est effectivement dangereuse. Mais c'est prometteur si on y reconnaît une crise d'adolescence. En revanche, ce qui me semble en tout cas actuellement sclérosé, vieilli, trop lourd, ayant perdu sa souplesse, sa fraîcheur, ce sont nos institutions. À l'image d'un adolescent qui a grandi trop vite et ne rentre plus dans ses habits, notre humanité a du mal avec ses structures. À un vin nouveau, il faut de nouvelles outres, nous dit Jésus. Mais j'ai confiance, une humanité qui entrerait dans une nouvelle façon d'être vivant saurait bien se donner de nouvelles institutions qui vont bien. Alors où en sommes-nous avec cette crise d'adolescence de l'humanité qui est donc si décisive? Nous sommes comme suspendus entre la mort et une nouvelle vie. Alors est-ce que nous allons vers la mort, vers une catastrophe, ou est-ce que nous allons vers une humanité plus mature? Cette alternative, elle traverse en fait toutes les réalités de l'existence. C'est donc pas nouveau, c'est donc pas spécial. Cette alternative, elle est si profonde qu'elle se retrouve inscrite dans la structure même de la langue hébraïque, à travers ce mot « rebel », qui veut dire à la fois les douleurs de l'accouchement, les contractions, et puis les liens de la mort. Ça semble n'avoir aucun rapport, et pourtant, c'est cette alternative qui se dessine. Lequel de ces deux rebelles traverse aujourd'hui notre humanité? Comment l'orienter vers le bon rebelle, vers la vie, vers un accouchement d'une vie nouvelle, plus mature? C'est cette question que nous pose l'apôtre Paul dans sa relecture de cette histoire emblématique, archétypale, des Hébreux à travers le désert, marchant vers la terre promise, le pays où coule le lait et le miel, afin de voir ce que nous pourrions faire, nous, aujourd'hui. Alors l'expérience des Hébreux nous fait réfléchir, nous fait analyser, puis Paul nous propose de nous souvenir, nous, que Dieu nous a aimés, qu'il nous a accompagnés et qu'il nous a nourris dans tous nos cheminements à travers nos déserts. Et puis il nous conseille d'avoir une vision de la finalité de la traversée de crise. Ce n'est pas une fin, la fin du monde, la fin des temps, la fin de notre existence. Mais c'est une belle humanité émancipée et bienfaisante. Cela nous appelle à prendre du recul et à analyser notre génération avec un regard à la fois bienveillant, mais en même temps déterminé à faire ce que nous pourrons. En effet, l'adolescence est effectivement un temps compliqué. C'est vrai que des dégâts pourraient survenir dans l'avenir de l'humanité. Mais ces histoires de la Bible nous disent que ce n'est pas une fatalité, d'abord, que nous pouvons effectivement toujours faire quelque chose pour que la fin de l'histoire coïncide avec sa bonne finalité que Dieu nous offre. Et effectivement, un accouchement non plus n'est pas une mince affaire. C'est une étape douloureuse et risquée, mais elle est tournée vers la vie. Pas vers la souffrance, pas vers la mort. Nous devons donc devenir sages-femmes pour accompagner ce processus. Mais pour cela, il nous faut d'abord commencer par vivre nous-mêmes ce processus. Jésus nous en montre le chemin. Ces tentations au désert, ce sont comme des contractions d'une conscience qui est en train de devenir un petit peu plus adulte. Jésus nous montre comment ne pas nous laisser attraper par les filets de la mort, donc, mais plutôt naître, être émancipé et devenir même un peu plus christique, dévoué au salut du monde, à notre mesure, bien sûr, mais quand même christique. Ce récit montre que, pour devenir donc un peu plus adulte, l'être humain, et aussi l'humanité en fait, bien sûr, doit traverser un combat intérieur qui est évoqué ici par le mot traduit par « diable », mais qui signifie littéralement tout ce qui nous déconstruit, tout ce qui nous divise, quoi que ce soit. C'est-à-dire donc littéralement quelque chose de diviseur, le diviseur, ai-je mis dans la traduction. Ces tentations que vit Jésus sont des pulsions régressives typiques de l'adolescence quand on y regarde. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. C'est la première tentation. J'en ai envie, je le prends, je le fais. Que l'on peut reconnaître dans notre humanité adolescente. Quand elle abuse des ressources de la planète, ou quand nous consumons notre temps de vie précieux dans de simples distractions. Bonne quand il s'agit de reprendre des forces, problématique quand on se laisse attraper par ses filets. La réponse adulte de Jésus consiste à ne pas réduire le sens de notre existence à notre seul désir. Il réintroduit du sens, du temps long, une visée, une finalité, une dimension spirituelle. Ça nous donne des pistes pour notre humanité et pour nous-mêmes. La deuxième tentation typique est « Je te donnerai tout le pouvoir ». Avec la gloire de ses royaumes. Alors c'est étrange parce que l'adolescent, il est objectivement déjà beau, grand et fort. Mais il est parfois un peu perdu et il cherche à s'imposer en écrasant les autres, peut-être pour se rassurer lui-même. Alors on peut reconnaître cela dans notre actualité à bien des niveaux. Au niveau des États, quand les États les plus puissants s'amusent à essayer de piquer un bout de terrain à l'autre, mais aussi pour nous-mêmes, à tout niveau de la société ou dans nos familles, parfois, hélas. La réponse adulte de Jésus consiste à choisir la grandeur du service de l'autre plutôt que la domination sur l'autre. C'est ce qui manifeste une vraie grandeur, le service. Cela renverse complètement la perspective. Et cela nous donne aussi une finalité. La troisième tentation, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas du sommet du toit. C'est une attitude suicidaire que l'adolescent a parfois, malheureusement, prenant des conduites à risque, dans une tentative désespérée d'être aimé, parce qu'il a du mal à s'aimer lui-même. La réponse adulte de Jésus, c'est de se souvenir qu'il est, en réalité, déjà aimé, qu'il est déjà le Fils bien-aimé de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit aussi. Pas besoin de faire du chantage affectif. Nous sommes déjà aimés et nous serons toujours aimés, quoi qu'il se passe. La réponse de Jésus, c'est aussi d'accepter la réalité. Si on fait n'importe quoi, eh bien ça engendre simplement du chaos et donc de la souffrance et de la mort. Jamais du mieux. Donc ce cheminement de Jésus nous donne des pistes essentielles, fondamentales, sur ce dont notre humanité adolescente aurait besoin pour s'en sortir de la meilleure des façons. Afin que ce temps de crise soit un temps d'accouchement d'une humanité plus mature. Mais est-ce bien raisonnable d'espérer obtenir par nos petites actions que l'humanité accouche de la vie, d'une humanité nouvelle, plutôt que de foncer droit vers la catastrophe ? Eh bien oui, nous dit quantité de passages de la Bible. Ce doute... Que suis-je pour le faire ? Ce doute, lui aussi, est écrit dans l'histoire de Moïse, bien entendu, devant cette tâche que Dieu lui adresse, comme à nous. Et Dieu lui répond, « Tu peux le faire, et je ne te laisserai pas tomber dans ce boulot. » Jésus, lui, à son habitude, il explique cela par une parabole. Il nous dit qu'un gramme de levain suffit à faire lever toute la pâte et que la fournée soit délicieuse. C'est particulièrement approprié pour notre génération hyper connectée actuelle. On le voit, une minuscule vidéo d'une minute et demie publiée sur le site de l'Église va être regardée par plus de 20 000 personnes en une seule semaine. Alors de même, le moindre petit gramme de bon geste, le moindre petit gramme de bienveillance, de service que nous pouvons apporter, c'est un levain puissant dans notre humanité. Cela change le monde. Cela accouchera le monde. Car le bien a, en réalité, infiniment plus de résonance dans l'univers que le mal. Notre aide est en Dieu. Amen.
Voici le récit du premier repas que Jésus prit avec ses disciples, dans l'Évangile selon Marc, les versets 26 à 29. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang ». Le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous invite à vous unir maintenant dans la prière. Seigneur, nous te remettons à ce jour et pour ceux à venir
tout ce que nous ne pouvons pas contrôler. Toutes les personnes qui vivent dans l'insécurité, la maladie, la violence et la peine. Souffle sur leur visage ton esprit divin, ta source de vie. Donne-leur la paix pour avancer plus sereinement à tes côtés, combattre tout ce qu'ils traversent et offre-leur ton cœur plein de sûreté, d'empathie et pour qu'ils puissent toujours espérer et aspirer à un monde meilleur, là où la violence n'est pas un signe de puissance. Et en commun avec tous les chrétiens, nos cœurs élèvent vers toi la prière que Jésus nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Et puis nous vous proposons de chanter « Esprit du Seigneur, puissant défenseur, pouvoir vivant du Créateur ». C'est le 35-10 dans notre recueil, page 484, les trois strophes, trois premières strophes. Envoie ton esprit, afin qu'en mangeant ce pain et en buvant cette coupe, nous sentions ta présence chaque jour avec nous, en nous, et prenions pleinement notre place dans le corps du Christ vivant. Tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est en signe de cette promesse que quiconque le désire peut prendre le pain et ou boire une coupe, en signe de son désir d'assimiler tout le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Venez, nous dit-il, car tout est prêt. Je vous propose de vous mettre en cercle autour de cette table comme vous pouvez. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous.
La coupe pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de Jésus-Christ. Le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous.
Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout en nous bénisse ton Saint-Nom. C'est toi qui pardonnes toutes nos fautes. C'est toi qui guéris toutes nos infirmités. C'est toi qui arraches notre vie à la tombe. C'est toi qui nous couronnes de bonté et de miséricorde. Alors oui, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Alors un grand merci à Aude Ballanche pour la liturgie qu'elle a préparée et puis qu'elle a dite, pour sa participation. C'est vraiment, vraiment un témoignage, un geste qui est important pour nous. Donc merci beaucoup. C'est vraiment touchant et ça nous inspire. Un grand merci à Didier Gaudel qui est à l'orgue pour accompagner notre culte donc de ses talents et de la musique. Merci aux conseillers de paroisse, Sabine et Christophe, qui ont tout préparé et qui sont en train de nous préparer aussi. Une verrée qui est à la sortie et qui est aussi fait partie du culte, dans un sens, par les échanges que nous pouvons avoir entre nous. Merci à Nathalie, la pasteur de la paroisse, pour sa confiance. Et puis, grand merci à vous d'avoir fait ce culte, finalement, ensemble, en étant là, rassemblés, dans le temple de Coligny. Alors, comme dernier chant, je vous propose de bénir Dieu avec le cantique 41-10 de notre recueil, les trois strophes, et puis pendant le chant de ce cantique, eh bien nos offrandes vont être recueillies. C'est un geste liturgique qui remet aussi les choses en perspective dans notre existence. Bénissons Dieu, notre Roi. L'Éternel te bénit et te gardera toujours. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et il t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Oui, ô Éternel, sois béni par toute âme qui respire, par notre humanité, toute unie ensemble. Tu es la source de la vie. Amen.